Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je puis également vous assurer que le prochain gouvernement s'attellera à résoudre vos problèmes de salaire sans que personne ne puisse être spolié.
14 ans après la chute de l'empereur Bokassa Ier, dont il était le premier ministre, Ange Félix Patassé, qui a connu la prison et l'exil, vient d'être élu à la tête de la Centrafrique. Il est le nouveau président de la République à partir de ce mois de septembre 1993. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Ange Félix Patassé.
Les grands axes de notre programme reposeront sur la décentralisation dont le corollaire est la régionalisation. Chaque région, selon un plan d'ensemble à promouvoir, sera un pôle de développement afin de lutter efficacement contre l'exode rural et contre l'hypertrophie de la ville de Bangui. Le gouvernement, qui sera très vite mis en place, présentera dès la première session de l'Assemblée nationale à convoquer pour la première semaine de novembre 1993 son programme d'action détaillé afin qu'il n'y ait nulle ombre et que chaque Centrafricaine et Centrafricain puisse connaître et suivre dans la transparence l'évolution de notre politique.
Une chose est de critiquer le régime, une autre de gérer le pays. À son tour, le président Ange Félix Patassé, qui a suscité tant d'espoir, qui a tant promis, est confronté à son tour à la réalité du pouvoir. Très rapidement, les espoirs fondés sur lui vont se transformer en déception. Il faut dire que le président du MPLC, le Mouvement pour la Libération de la Centrafrique, hérite d'un pays en pleine déliquescence, avec une économie en mauvais état. Il doit également faire face aux nombreux mois de salaire qui n'ont pas été payés aux fonctionnaires. Promesses faites pendant la campagne et même au moment de la prestation de serment. Seulement, les caisses sont vides. Il faut également restructurer l'armée, leur payer leurs soldes, mais aussi les redéployer. Martin Ziguele, un de ses proches.
Il a fait des choix de restructuration de l'armée qui ont heurté des intérêts. C'est-à-dire, en fait, il a dissous quelque peu, il a remplacé la garde présidentielle, il a envoyé ses éléments dans des unités sur le terrain, ça a été mal vécu, ça a été vécu comme un genre de spoil system, comme on dit
aux États-Unis.
Et donc, ça a été très mal vécu dans un pays fragilisé.
L'évaluation du franc CFA, c'est bien pour les exportations des pays africains, moins bien pour leurs importations. Nous le disions hier, et déjà, les consommateurs réagissent vivement. En Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas voir les prix flamber. Olivier Lerner.
Avec cette grosse dévaluation, ce qui devait arriver est arrivé. C'est parfois la bagarre dans les grands magasins, la razzia sur certains produits, le prix du riz, des sardines, du poulet explose et il n'y a déjà plus de lait ni d'eau minérale à Abidjan.
On est désolé parce que nous n'avons pas encore eu d'augmentation de salaire et on augmente toutes les choses à 100%. Et comment nous allons devenir? Vraiment, on essaie où mettre la tête, franchement.
Ça ne veut pas de choses de nos autorités, ça vient de loin.
Je ne sais pas ce qu'on va faire, ça sera difficile. Quoi. On va faire avec.
Depuis 2 jours, nous ne sommes pas livrés. J'ai eu un des fournisseurs ce matin qui a un encours de 5 milliards. Ces 5 milliards deviennent 10 milliards. Il demande qui va payer la différence s'il bloque les prix.
Côte d'Ivoire, Sénégal, même angoisse.
Ça va peser lourd sur notre économie, sur l'économie des pays sous-développés et surtout sur les pays membres de la zone franc.
Ce 12 janvier 1994, le franc CFA a bien été dévalué de moitié. Comme la majorité des nations de la zone franc, Ange-Félix Patassé, déjà confronté à la crise avec le FMI qui a rompu le dialogue avec la Centrafrique depuis André Kolingba, son prédécesseur, doit faire face à la flambée des prix et à la baisse du pouvoir d'achat des populations.
Force est de constater, hélas, que l'Afrique centrale est malade du fait de l'égoïsme de chacun des États de l'Afrique centrale. Le chauvinisme national a fait qu'aujourd'hui, et je le dis avec fermeté, l'Afrique centrale a pris trop de retard
par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Et je dis avec fermeté que si l'Afrique centrale ne se ressaisit pas, eh bien nous allons à la dérive. Et c'est ça la leçon principale qu'il faut tirer de notre rencontre de Libreville. L'élément de base, c'est la solidarité. On va trouver des solutions bientôt à notre rencontre de N'Djamena dans une ou deux semaines. Et on trouvera des solutions puisqu'on a dépassé le cadre d'un mécanisme purement chauviniste pour aborder de grands problèmes d'ensemble, à savoir la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
Un projet qui n'apportera rien de neuf. La dévaluation frappe et elle aggrave la situation sociale.
Le président Kassassé n'avait pas vu venir non plus la dévaluation dans un pays où il y avait eu trois années blanches successives et une année de grève de la fonction publique. Donc il est arrivé en novembre au pouvoir, cette période de trois ans d'inactivité scolaire et une année de grève dans la fonction publique. Donc autant dire que l'administration commençait à s'installer dans les bureaux quand la dévaluation est tombée. Et naturellement, il n'y avait eu aucune mesure d'accompagnement prévu, il n'y avait eu aucun dispositif pour atténuer le choc. Et il s'était mis en tête, puisque c'était les conditions pour dévaluation, il fallait que le pays se mette en règle avec le FMI.
Tout à fait.
Le gouvernement du président Koryma avait rompu avec le FMI trois ans auparavant. Donc rompre avec le FMI, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut payer des arriérés. Les arriérés au fond, les arriérés à la Banque mondiale, pour pouvoir avoir droit à un accord. Et donc, pour pouvoir payer les arriérés, dans un pays qui sortait de trois ans de grève scolaire, d'une année de grève des fonctionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maigres ressources, il fallait en prélever une bonne partie pour payer ces arriérés. Et en payant ces arriérés pour FMI à la Banque mondiale, d'autres arriérés sont apparus en interne, c'est-à-dire les arriérés intérieurs, c'est-à-dire les salaires, les pensions, les bourses. Il y a eu un cocktail de mécontentement, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur position ici et là. Deuxièmement, il y a eu l'apparition de nouveaux arriérés de salaire, parce qu'il fallait honorer donc les engagements internationaux. Troisièmement, il y avait donc l'inflation qui s'est installée, parce qu'après la dévaluation, tous les prix ont été mécaniquement multipliés par au moins deux. Et je vous rappelle que la RC a été un pays enclavé. Nous sommes à 1200 km du port le plus proche qui est de là. Donc c'est un conflit détonnant. Et comme dans pareil cas, une étincelle met le feu à la maison, et c'était donc le déclenchement de la première mutinerie militaire en avril 1994, et cette mutinerie avait dit clairement que c'était pour protester contre les arriérés de sol des militaires.
Les militaires sont donc de nouveau hors de leur caserne. Mais avant d'en arriver là, il faut dire que certains éléments personnels sont venus un peu plus brouiller l'image du président Patassé. Il est cité dans un scandale bancaire français. Noël Dogliani, négociant français et vice-président du comité de soutien de Patassé en 1993, lui a versé une somme de 55 millions de francs CFA environ. Cet argent proviendrait de détournements réalisés au crédit mutuel par un de ses employés, le complice de Dogliani. Patassé reconnaît les faits et s'engage à rembourser la somme perçue. L'évaluation, le règlement des échéances du FMI, le paiement des salaires des fonctionnaires, les chantiers sont nombreux et Ange-Félix Patassé n'a pas d'argent pour honorer ces échéances. Bien que ses relations se soient considérablement améliorées avec Paris, qui a un point d'ancrage de ses forces armées en Afrique sur le territoire centrafricain, il ne bénéficie pas du soutien financier de la France. Mais Paris reste le principal bailleur de fonds de la Centrafrique. Elle va fournir en 1994 $18,5 millions pour le financement de son programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. Elle annule également pour 4 milliards de francs CFA d'arriérés de dette. Mais Ange-Félix Patassé doit faire face à une armée qui n'en peut plus d'attendre et qui n'accepte pas la restructuration et le démantèlement qu'il organise. C'est le début de la mutinerie dans les casernes en avril 1994. La revendication est simple. Paiement des arriérés de soldes. C'est le début d'une longue crise qui va considérablement secouer la Centrafrique et le régime d'Ange-Félix Patassé. Il faut négocier avec les mutins. C'est dans ce climat qu'il va organiser le référendum pour avaliser la constitution qu'il propose.
Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour reconstruire. Je ne suis pas venu pour semer la division, mais pour unir. Je ne suis pas venu pour prêcher la haine, mais au contraire, pour chanter l'hymne de l'amour fraternel et patriotique pour une véritable réconciliation nationale. Je suis venu essuyer les larmes de ceux qui portent le fardeau de la semence
car la moisson est proche et il faut absolument éviter de trébucher de peur de la renverser cette semence ou de détruire la récolte en arrachant l'ivraie. Je t'ai promis une nouvelle constitution réellement démocratique qui puisse te protéger, car tu as trop souffert dans ta chair et dans tes os. Tu as à ta disposition cette nouvelle constitution que tu considéreras comme ton guide éclairé, car elle t'indiquera tes droits, ton devoir et tes obligations. C'est le beau cadeau que je t'offre pour la Ve République.
Malgré les pourparlers et les tentatives d'apaisement, la mutinerie se poursuit.
Sur le plan de l'État, aucune poursuite judiciaire sera engagée contre tous les mutins qui rentreraient dès ce soir dans leurs casernes et ressusciteraient leurs armes pour rester dans la légalité constitutionnelle. Toute autre faction qui resterait en dehors de cette ligne sera en dehors de la ligne d'accord entre le gouvernement et notre vaillante armée. Par ailleurs, j'ai donc également décidé de la mise en place d'un comité chargé de me faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de notre vaillante armée, dont j'ai l'ambition d'en faire une armée d'élite. Je demande en conséquence au ministre d'État chargé de la Défense de prévoir les états généraux de la Défense pour passer en revue tous les problèmes préoccupants de notre défense nationale.
À Bangui, on en est à la seconde mutinerie depuis l'arrivée d'Ange-Félix Patassé à la tête de la Centrafrique. Le climat est des plus délétères. On va de manifestation en négociation. Gabriel Koyambounou est nommé Premier ministre. Mais en réalité, ce que demandent les soldats, c'est le paiement de leurs arriérés de soldes. Ange-Félix Patassé n'en a pas les moyens.
Je suis surpris que ceux qui ont mis le pays par terre puissent aujourd'hui se targuer de tromper le peuple et vouloir amener nos éléments à entrer en conflit avec la nation centrafricaine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à nos éléments, je les félicite, nous ferons le point et nous déterminerons la responsabilité de ceux qui veulent pêcher en nos troubles. La République centrafricaine s'est engagée dans une nouvelle voie, la voie de la démocratie véritable, par le dialogue et la concertation. Notre pays s'est engagé dans la voie de l'alternance politique. Cela veut dire que chaque homme politique fait son droit de faire de la politique, parce que la loi organique concernant les partis politiques est claire et nette. Mais ceux qui se disent démocrates et qui préfèrent dans la nuit manipuler, pousser les Centrafricains à s'entretuer, si l'enquête prouve réellement qu'ils sont responsables, alors les dispositions seront prises. Ce n'est pas moi qui prendrai ces mesures, mais c'est la loi. Parce que personne n'est au-dessus de la loi.
Jeudi 18 mai 1996, le centre de Bangui est assiégé par une centaine de soldats réclamant le paiement de leurs arriérés de soldes. Scène courante à Bangui. Seulement, certains vont tenter de pénétrer dans les locaux de la radio pour exiger que soit donnée lecture à l'antenne d'un communiqué exposant leurs doléances. Les forces de l'ordre interviennent pour empêcher cette intrusion. En début d'après-midi, une centaine de soldats qui s'étaient emparés d'armes entreposées dans l'armurerie d'une caserne commencent à parcourir les rues de la ville en tirant des coups de feu. Certains vont se rendre aux abords du palais présidentiel où des tirs vont être échangés avec des éléments de la sécurité présidentielle. Le ministre d'État chargé de la Défense, Jean-Médi Yapende, accompagné du chef d'état-major des armées, le général Alphonse Gombadi, se rend alors au siège de la radio où il lance un appel radiodiffusé invitant les mutins à regagner leur caserne et leur assurant que leur revendication a bien été prise en compte par le président Ange-Félix Patassé. Seulement, les mutins réagissent en assiégeant l'immeuble de la radio. échangeant des tirs avec les hommes de la sécurité présidentielle. Ils vont empêcher le ministre et le chef d'état-major de quitter les lieux. La radio cesse alors d'émettre. Dans la nuit du jeudi à vendredi, les mutins, une centaine au départ, reçoivent le renfort d'éléments de leur unité de Boire dans l'ouest du pays, ainsi que du régiment de défense opérationnelle du territoire. Tout est donc réuni pour qu'éclatent, en fin de matinée, des affrontements plus violents entre les soldats mutins et la sécurité présidentielle restée loyale au gouvernement. La situation est critique.
À Bangui, capitale de Centrafrique, la mutinerie se poursuit. Plusieurs membres du gouvernement sont désormais pris en otage par quelques 200 soldats. Jean-Marc Pitt.
Du 18 au 22 avril dernier, Bangui avait déjà été le théâtre d'un soulèvement de 100 à 200 soldats qui réclamaient le paiement d'un arriéré de 3 mois de solde. En échange de la promesse d'un paiement rapide et d'une amnistie complète, tout était rentré dans l'ordre. Seulement depuis quelques jours, ces mêmes soldats soupçonnaient leur président, Ange-Félix Patassé, de vouloir les désarmer et ouvrir une enquête sur leur mutinerie. Tout a donc recommencé et depuis hier, un nouveau soulèvement fait trembler le centre de la capitale centrafricaine.
C'est assez inquiétant parce qu'on ne sait pas où on va. Nous, on est bloqués dans la cuisine d'un immeuble, on est couché par terre ou allongé. On a des impacts de balles, on a des balles qui passent dans la maison, on a des coups de mortier qui arrivent sur l'immeuble. Alors c'est stressant, quoi. On essaye de prendre ça avec calme, mais ça devient de plus en plus difficile. Depuis ce matin, c'est vrai que c'est impossible de nous évacuer parce que les tirs sont beaucoup trop nourris, beaucoup trop violents. Ils peuvent vraiment pas. Envoyer des soldats français là, ça serait dramatique.
2500 ressortissants français vivent à Bangui. Le Quai d'Orsay a affirmé que toutes les mesures avaient été prises pour les protéger. 800 soldats français sont basés dans la capitale. Certains sont chargés de la protection du palais présidentiel. Depuis hier soir, les mutins retiennent en otage le ministre des Ressources énergétiques et le chef d'état-major des armées. Cet après-midi, ils se sont dit prêts à négocier sur la base d'une amnistie concrétisée cette fois par une loi.
Dans l'impasse, Ange-Félix Patassé se tourne alors vers Paris.
Dans le cadre de la démocratisation, la France et les pays amis ont beaucoup investi pour la démocratie en Centrafrique. Et l'armée française est là pour protéger les institutions de la République.
Vous êtes actuellement sous protection des deux armées.
Oui, l'armée centrafricaine et puis l'armée française. Et en tant que chef d'État, et c'est dans mes attributions, au nom du peuple, j'ai demandé à la France d'intervenir pour sauver les institutions de la République issues des élections libres et démocratiques.
La France va voler au secours d'Ange-Félix Patassé qui remercie Jacques Chirac à sa manière.
À mon frère et ami Jacques Chirac, le peuple centrafricain qui a défilé ce matin à montrer à travers les banderoles lors du défilé, lors de la marche, rendu hommage non seulement à ton action personnelle, mais à travers toi, la France. Et ce peuple me charge de te dire merci parce que tu nous as renvoyé l'ascenseur. La paix est universelle, la démocratie est universelle. Tu n'as pas à rougir de ce que tu as fait, au contraire, à travers toi. La France est devenue grande parce qu'elle a respecté les principes de liberté et de justice.
Cette intervention de la France a encore une fois sauvé le régime d'Ange-Félix Patassé. Mais jusque quand s'appuiera-t-il sur ce soutien? Surtout qu'à Paris, l'opposition socialiste dénonce cette ingérence, s'insurge contre le fait que l'armée française joue encore les gendarmes dans Bangui. Mais le président a-t-il les moyens de mettre un terme à ces mutineries à répétition? Pourra-t-il tenir longtemps sans une réelle amélioration de son économie? Surtout que dans les casernes, parmi ses proches, le soutien est de moins en moins franc chez certains officiers. Quelle solution pour sortir de cette longue crise sociale, politique et économique dans laquelle la Centrafrique est plongée depuis les indépendances? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Ange-Félix Patassé, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Les archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
À mon frère et ami Jacques Chirac, le peuple centrafricain qui a défilé ce matin à montrer à travers les banderoles lors du défilé, lors de la marche, rendu hommage non seulement à ton action personnelle, mais à travers toi la France. Et ce peuple me charge de te dire merci parce que tu as rendu, tu nous as renvoyé l'ascenseur. La paix est universelle. La démocratie est universelle. Tu n'as pas à rougir de ce que tu as fait, au contraire. À travers toi, la France est devenue grande parce que elle a respecté les principes de liberté et de justice.
En ce mois de mai 1996, l'armée française est intervenue pour sauver le régime centrafricain qui fait face depuis plus de 2 ans à des mutineries successives. Grogne qui est montée d'un cran cette fois-ci puisque les ministres ont été pris en otage. Ces remerciements d'Ange Félix Patassé, le président, adressés sur un ton très familier à Jacques Chirac, ne l'enchantent pas particulièrement. Ceci d'autant plus qu'à Paris, les centrafricains, mais également les socialistes, dénoncent cette ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain.
Je voulais vous dire, peuple français, pourquoi la France veut nécessairement maintenir sa base militaire là-bas.
Ils ont tenu 4 heures dans l'ambassade de Centrafrique à Paris, encerclée par les CRS. Une dizaine d'opposants au régime du président Patassé ont voulu crier leur colère après l'intervention des forces françaises qui a fait 10 morts parmi les mutins de Bangui.
Nous demandons aujourd'hui que les hommes politiques français se saisissent du dossier centrafricain et ne plus laisser ce dossier entre les mains des va-t-en-guerre qui sont des militaires.
Pour les 2000 soldats français de Centrafrique, il s'agissait d'une opération de légitime défense après l'assassinat de 2 officiers français. Mais en occupant ce quartier de Pétévo, tenu par les mutins, l'armée française s'engage un peu plus dans le conflit centrafricain, aux côtés d'un président Patassé de plus en plus contesté. C'est ce qu'a voulu dénoncer Lionel Jospin.
L'armée française n'a pas à être transformée en une force de sécurité intérieure, ni en une garde présidentielle pour Ange-Félix Patassé.
Les mutins de Bangui reprochent à la France d'utiliser ses accords de défense pour réprimer un soulèvement intérieur. Malgré 10 morts et 30 prisonniers, ils ont encore les moyens de se faire entendre. Ils estiment que le président Patassé a favorisé les membres de son ethnie au sein de l'armée et qu'il s'est discrédité. Les mutins appellent pourtant au dialogue, mais la médiation des 4 États africains qui reprend ce soir a déjà montré ses limites.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ange-Félix Patassé. Cette fois-ci, il n'est pas passé loin. Sans l'intervention française, son régime serait tombé. Ange-Félix Patassé se sent sécurisé. Un petit répit après toutes ces mutineries qui ont rythmé son mandat depuis son élection. Mais ce sauvetage ne s'est pas fait sans contrepartie. Paris a dépêché à Bangui le général Bernard Thorette pour négocier la fin de la mutinerie. Et l'officier français a obligé Ange-Félix Patassé à signer un accord qui fait la part belle aux mutins. Toutes leurs revendications ont été prises en compte. C'était cela où ils se retrouvaient le soir même sans protection. Le bon pour accord signé dans le coin gauche en haut d'un bout de papier le dépouille en réalité de l'essentiel de ses prérogatives. Il doit nommer un gouvernement d'union nationale qui aura pour tâche de gérer le pays et en particulier des fonds français pour le reconstruire. Ceci jusqu'à la prochaine élection présidentielle fixée pour 1999. C'est l'ambassadeur de Centrafrique à Paris, Jean-Paul Goupandé, qui est pressenti pour présider ce futur gouvernement.
Le MLPC a gagné les élections et c'est normal que le Premier ministre soit issu du MLPC. Et dans tout système démocratique, c'est comme ça. Mais comme la semaine l'exige, j'ai demandé à mon parti d'accepter ce sacrifice supplémentaire. Et le parti m'a suivi. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée. Et je crois que le problème, c'est le choix de la personnalité.
On aura un nom d'ici la fin de la semaine.
D'ici la fin de la semaine, vous aurez un nom.
Vous connaissez la position de ces partis, du CODEPO. Ils ont fait un certain nombre de remarques, notamment le changement de la Constitution pour que le Premier ministre, le futur Premier ministre, ait des pouvoirs élargis. Alors, qu'en sera-t-il? Est-ce que vous êtes prêt à modifier la Constitution?
L'initiative de la Constitution appartient au président de la République et à l'Assemblée. Et ce n'est pas une portion de citoyens qui pourraient m'amener à modifier la constitution.
Est-ce que la politique centrafricaine et donc le choix du Premier ministre se décide à Bangui?
Mais parfaitement. C'est moi seul qui décide du choix du Premier ministre. Aucune personne autre que moi.
Quel type de gouvernement voulez-vous mettre sur pied exactement? Avec quelle participation?
Avec tous les hommes de bonne volonté qui voudraient bien se joindre à moi pour que le cap que nous avons signé avec le FMI soit maintenu, à savoir le mémorandum de politique économique et financière avec les instituts de Bretton Woods.
Pas question de perdre la face. Ange-Félix Patassé veut montrer qu'il est toujours aux commandes.
Un arrangement avait en effet été conclu sous l'égide de l'armée française entre les mutins et le président Patassé. Amnistie acceptée et annonce par le chef de l'État d'un gouvernement d'union nationale. Le chef de l'État qui appelle les Français à revenir en RCA.
Je demande aux Français et à tous les amis étrangers qui ont choisi ce pays comme le leur, qui ont investi, qui nous ont fait confiance, je leur lance un appel solennel pour qu'ils ne perdent pas espoir. Je mettrai tout en œuvre pour qu'ils reviennent, pour qu'ensemble nous rebâtissions la République centrafricaine qu'ils ont adoptée comme leur seconde patrie.
Si sur le plan national, Ange-Félix Patassé doit désormais faire contresigner certaines de ses décisions, s'il est obligé de vivre, de partager certaines de ses prérogatives avec son nouveau Premier ministre, il n'en est pas pour autant moins actif. Il mène une diplomatie très offensive pour un pays en crise. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux, donne son avis sur les crises et guerres qui secouent de part en part l'Afrique. Ainsi, il dénonce le putsch qui va renverser le président Kaba en juin 1997 en Sierra Leone.
Nous ne pouvons que condamner cela avec fermeté. Moi, je suis un président élu démocratiquement. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait encore des coups d'état militaires pour remettre en cause la volonté du peuple. C'est là la détermination de l'Afrique. Je ne peux qu'appuyer. J'appuie cela. Et je pense que nous ne sommes pas des bêtards. Mais nous ne pouvons pas accepter encore en Afrique de coups d'état.
Ça crée un précédent.
Précédent, mais c'est pour jeter les bases de l'avenir. Pas de coup d'état militaire. Si un militaire prend le pouvoir, eh bien, le peuple, à travers les gouvernements élus démocratiquement, doivent réagir.
Quelques semaines plus tard, lorsque Laurent-Désiré Kabila et l'AFDEL, l'Alliance des Forces Démocratiques de Libération, pénètrent à Kinshasa, après la fuite du maréchal président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga, il prend acte. Même s'il entretenait de très bonnes relations avec son prédécesseur, pas question de se fâcher tout de suite avec son grand voisin zaïrois devenu RDC, République démocratique du Congo.
Il faut être réaliste. Ce changement intervenu au Zaïre, devenu maintenant République démocratique du Congo, vous avez vu combien la population a salué l'arrivée de Kabila à Kinshasa. Nous, nous sommes que des acteurs, mais nous avons aussi une très longue frontière de plus de 1500 km avec ce pays. Et comme moi, je privilégie les États et non les individus, je privilégie également la politique de bon voisinage. Je voudrais que dans cette frontière, qu'il y ait de la paix et qu'il y ait de la sécurité. Voilà la raison fondamentale.
Vous êtes confronté à un problème de réfugiés. Aujourd'hui, beaucoup ont passé la frontière.
En effet. Mais ça, ce sont les conséquences des pays voisins. C'est pourquoi nous souhaitons que la paix devienne effective en Afrique centrale. Mais ces réfugiés, nous les accueillons avec le Haut Commissariat aux réfugiés. On crée les conditions nécessaires pour que pour les militaires, ils soient désarmés. Pour les civils, ils vont sur les sites qui sont retenus en accord avec le HCR. Alors nous créons les conditions parce que je suis aussi un ancien réfugié. Alors vous comprendrez que je comprends très bien le problème des réfugiés.
Ange-Félix Patassé, toujours aussi actif, va même proposer sa médiation dans la guerre civile qui secoue l'autre Congo, celui de Brazzaville, avec lequel il partage également des kilomètres de frontière sud.
Le peuple congolais vit une situation dramatique et j'ai dit que je ne peux pas rester indifférent à ce drame.
et mon frère a accepté que nous puissions nous retrouver pour rechercher ensemble les solutions de paix, et ceci sans exclusive ceux qui sont de l'intérieur comme de l'extérieur, qu'ils réfléchissent et qu'ils voient la souffrance du peuple congolais tout entier. Comme j'ai dit au président, je me rends disponible pour apporter ma petite contribution dans la recherche de solutions entre frères.
Cette médiation ne sera pas acceptée par les belligérants.
Je crois que je suis élu démocratiquement par le peuple centrafricain. Ce n'est pas quelques individus qui vont demander mon départ. Mon mandat, je l'exerce jusqu'à la fin de ce mandat et je peux postuler aussi pour les prochaines élections si je le désire. Donc, je tiens à réaffirmer que j'ai été élu par le peuple et je ne peux pas trahir la volonté de ce peuple.
Un an seulement après sa nomination sur instruction de Paris, Ange-Félix Patassé décide de se séparer de son premier ministre, Jean-Paul Goupandé, avec qui les relations n'étaient pas vraiment des meilleures. Michel Bezerra Bria, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Jean-Paul Goupandé, est nommé Premier ministre. Dans le pays, en réalité, on vit toujours au rythme des crises et des grèves à répétition.
Pendant de longs mois, durant les années 1996 et 1997, la République centrafricaine a connu la plus grave crise de son histoire. Plusieurs mois de tension où l'incompréhension, la discorde, voire les affrontements douloureux ont caractérisé les relations entre les filles et filles de ce beau pays que nos ancêtres et Barthélemy Bourbanda nous ont légué. Près de deux années de vie politique, économique et sociale désarticulée ont engendré des problèmes de tout genre que nous devons affronter avec un sens patriotique élevé en toute responsabilité et en toute sérénité.
Ce pacte de la réconciliation nationale ne met pas pour autant fin à la crise qui mine le pays. Crise politique, mais surtout crise économique.
Encore une semaine sociale difficile pour la Centrafrique. C'est aujourd'hui le cinquième jour de grève des fonctionnaires. Ils réclament, je vous le rappelle, le paiement de 12 mois d'arriéré de salaire. Une actualité sociale aux accents évidemment très politiques. Et ce week-end, c'est l'ancien président David Dacko qui a donné son point de vue. Celui qui a succédé à Bokassa se rappelle de la conférence nationale qu'il avait organisée en 79. 21 ans plus tard, l'ancien président propose donc de renouveler l'expérience. David Dacko avec Laurent Chaffard.
Les syndicats ont demandé à tous les travailleurs d'observer d'abord un jour, puis après trois jours, puis c'est quatre jours. Et maintenant, on va parler d'une grève d'une durée indéterminée parce que les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Il y a beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'injustices sociales. Or, à tout cela, se greffent des problèmes à caractère politique. Beaucoup de partis politiques nantis disposant de soutien à l'extérieur ou des moyens financiers suffisants, de notoriété publique, on sait que ces partis politiques s'achètent des armes, stockent des armes et des munitions. Contre qui? Pourquoi? Si on peut éviter la guerre civile ici, en Centrafrique, ce serait une bonne chose. C'est pour cela qu'une conférence nationale pourrait dévancer donc toutes ces ambitions et trouver des solutions à nos problèmes nationaux. C'est pour ça que j'ai recommandé donc aux dirigeants une conférence nationale. Le président Patassé, le lendemain de son élection, l'avait promis au peuple centrafricain. Maintenant, elle est justifiée et s'il pouvait réaliser cela, ça éviterait à Centrafrique beaucoup de faux pas.
Entre-temps, une force interafricaine, la mission d'intervention et de surveillance des accords de Bangui, la MISAB, a été remplacée par la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. En ce mois de septembre 1999, les Centrafricains sont à nouveau convoqués aux urnes pour élire leur président de la République. Ange-Félix Patassé, qui vient d'être décoré par le guide libyen Muammar Kadhafi de la médaille de l'unité africaine, est candidat à sa propre succession. Il a en face de lui plusieurs poids lourds de la politique nationale. D'abord son prédécesseur André Kolimba, puis l'ancien président David Dacko. l'éternel opposant Abel Ngoumba aussi, Henri Pouzère, Jean-Paul Goupandé, son ex-premier ministre, Enor Derrand Lakwe, Charles Massi, Fidel Gwangjika et Joseph Abe Solo. Les 9 candidats qui s'opposent à lui sont réunis dans une coalition baptisée « Union des forces acquises à la paix », l'UFAP.
Avec 51,63% des voix, Ange-Félix Patassé remporte haut la main les élections du 19 septembre en République centrafricaine. Il s'apprête donc à entamer un nouveau mandat. Après une longue attente de 2 semaines, la Cour constitutionnelle a donc proclamé les résultats du scrutin. Je vous rappelle qu'il y avait 10 candidats en lice. Les 2 principaux rivaux du président ont obtenu des scores bien inférieurs à Ange-Félix Patassé. André Kolingba a recueilli 19,38% des suffrages et David Dacko 11,15%.
Quant à mes 9 autres frères candidats, je voudrais leur rendre un hommage mérité et les assurer de ma disponibilité. J'exprime également ma sympathie à tous ceux qui leur ont estimé leur suffrage. Je suis convaincu qu'une compétition démocratique ne saurait consister en une arène où des individus doivent régler des comptes personnels. Les invectives électorales auxquelles nous avons assisté ne doivent engendrer ni haine, ni rancœur, ni pessimisme, ni moins encore du désespoir.
C'était donc le président réélu, Ange-Félix Patassé. Alors pour l'instant, du côté des candidats défaits, aucune réaction d'André Kolingba. En revanche, l'ancien président David Dacko a accordé la primeur de ses remarques à RFI. On l'écoute.
Les résultats ont été falsifiés, les bureaux de vote étaient ouverts. Sans qu'il y ait des bulletins dans ces bureaux de vote, surtout dans ma région, mes bulletins n'étaient arrivés que vers midi ou 16 heures. Les électeurs découragés sont rentrés chez eux, c'est en ce moment que les bulletins sont arrivés. Quand on les a rappelés, ils n'ont pas voulu répondre. Donc il y a eu beaucoup d'abstention. Je peux dire que cette victoire n'est pas claire. Elle n'est pas transparente. Il appartient maintenant au peuple de réagir et non aux candidats.
Par la violence?
Non. Et on nous accuse de jeter les gens dans les rues armées pour semer des troubles. Il n'en est pas question. Je souhaite qu'il n'y ait pas de violence.
Malgré ces accusations de fraude, Ange-Félix Patassé est réélu pour 5 ans encore à la tête de la Centrafrique. Mais la question des salaires, les difficultés économiques restent pendantes. Comment va-t-il cette fois-ci résoudre ses urgences? En aura-t-il le temps au regard des attentes des Centrafricains qui n'ont pas connu la paix depuis l'empereur Bokassa Ier? Les soldats lassés d'attendre et la rue le laisseront-ils aller jusqu'au bout de ce nouveau mandat? Rien n'est moins sûr. Il a été élu certes, mais les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement chauds. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Ange-Félix Patassé. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou encore sur le site archivesdafrique.com. Et pour les plus connectés, vous avez également la possibilité de l'écouter sur votre téléphone avec l'application Archives d'Afrique à télécharger gratuitement sur Google Play ou sur iTunes. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'Archives d'Afrique. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Appelez-nous, exprimez-vous.